et sont les prémices pour Dieu. Versets 3 et 4. Elles ont été rachetées de la terre et sont les prémices pour Dieu. Qui a été racheté de la terre? Nous. Nous, effectivement. Ici, je dis bien ici, je crois que les 144 000, ce chiffre est symbolique. Toute personne, juive ou non-juive, qui croit que Jésus, l'agneau de Dieu, a versé son sang pour elle, a été rachetée de la terre. Et nous, l'Église, eh bien, nous sommes déjà les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Je citerai un autre passage dans l'épître de Jacques. Je vous le lis. Hein. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Là, il s'agit de toute l'Église, de chaque croyant. Tout croyant a été racheté de la terre et nous sommes les prémices pour Dieu. Ces 144 000 portent sur leur front le nom de l'agneau, Dieu le Fils, et le nom de Dieu son Père. En contraste avec le nom de la bête sur les incroyants. Tout chrétien a reçu sur son front la triple marque de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Une triple marque sur le front, ça doit se voir. Ça doit se voir. Les non-croyants doivent le voir. Parce que Dieu le Père rend témoignage à Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit qui nous conduit. Dieu le Père rend témoignage à son Fils, à Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit qui nous conduit. Est-ce que c'est marqué sur ton front que tu es chrétien, chrétienne, que tu appartiens à Jésus-Christ, parce que tu cherches à lui ressembler? Il est dit de ces chrétiens qu'ils sont vierges. Alors là, ne nous méprenons pas. Bien sûr, les relations sexuelles sont bonnes, elles sont voulues par Dieu, mais dans le cadre du mariage. Ici, vierge est donc à prendre dans le sens spirituel, pour désigner quelqu'un qui a gardé sa chasteté spirituelle en adorant le seul vrai Dieu, quelqu'un qui n'a pas commis adultère spirituel avec l'Antéchrist dans l'idolâtrie et l'immoralité de Babylone. Et oui, parce que nous sommes fiancés à Jésus-Christ et il attend de nous d'être de lui être fidèle pour être glorifié avec lui. Je citerai 2 Corinthiens 11, verset 2, ne le cherchez pas, je vous le lirai. 2 Corinthiens 11, verset 2. L'apôtre Paul disait « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est la situation de tous ceux qui aiment le Seigneur, qui cherchent à ressembler à Christ, sans compromis. Il est dit qu'ils suivent l'agneau où qu'il aille. Alors ça veut dire quoi? Que nous, chrétiens, eh bien, nous sommes derrière l'agneau et Dieu nous précède. Où qu'il aille, ça veut dire être prêt à le suivre même dans la souffrance, parce que Jésus a souffert, et donc dans la gloire. Marcher à la suite du Seigneur, c'est marcher sans partage, dans la droiture, la justice, la vérité, en fuyant le mensonge comme la peste. Marcher à la suite de Christ, c'est être irréprochable. Est-ce que vous avez du mal à vous retrouver dans ce portrait? Est-ce que vous vous dites irréprochable? Quand on se regarde, quand je regarde, je me dis, je suis pas encore arrivé. Pourtant, c'est ce que nous serons. C'est ce que nous serons, c'est ce que Dieu fera de tout chrétien. Et j'aimerais vous lire ce beau passage dans 1 Jean 3, 2 et 3. Toujours l'apôtre Jean qui dit, première lettre de Jean, chapitre 3, verset 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblable à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voilà ce que nous serons, comme nous le verrons de nos yeux, semblable à Jésus. Alors, eh bien, ne focalisons pas avec crainte sur les dures persécutions à venir, qui vont venir sur le monde. Comment est-ce que nous pourrons, si nous sommes encore de ce monde-là, sur cette terre, comment est-ce que nous pourrons traverser ces épreuves? Eh bien, c'est pas en regardant aux persécutions, c'est pas en regardant au gouvernement, c'est pas en regardant aux grèves, c'est en regardant à Jésus qui est devant nous. C'est en regardant à Jésus qui est devant nous que nous serons capables de le suivre. Que nous serons capables de le suivre. Pour être capable de suivre Jésus, il faut l'avoir. Il faut l'avoir, avoir le focaliser sur lui. C'est en regardant, en ayant les yeux fixés sur Jésus que nous serons capables de le suivre, Pourquoi ? Parce qu'il est le chemin. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Lui qui n'a jamais menti, qui est irréprochable, nous rendra semblable à lui. C'est lui qui nous rendra semblable à lui. Alors oui, nos vies sont appelées d'aller de transformation en transformation. Pourquoi ? Pour nous débarquer du monde ? Oui. Nous sommes appelés à marquer la différence avec le monde. Mais pas seulement. Pourquoi est-ce que Jésus veut nous transformer ? Eh bien, pour attirer les non-chrétiens à lui. Pour qu'ils aient envie de venir à lui. Déjà, par notre témoignage. Nous sommes appelés à attirer les non-croyants à Dieu par notre vie transformée et aussi par notre témoignage oral en annonçant l'Évangile. Notre témoignage devrait non seulement se lire sur notre front, mais aussi s'entendre de nos lèvres par l'annonce de l'Évangile. Et je vous propose de lire la suite du chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Et est-ce que, Pascal, tu voudrais lire les versets 6 au verset 13 du chapitre 14, s'il te plaît?
Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivait en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un troisième ange lui suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans le coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont donc pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Merci. Amen. Donc jusqu'ici, pour le moment, la parole. Nous sommes donc dans cette période bien précise de l'Antéchrist. Et à cette période bien précise de l'Antéchrist, Dieu envoie un dernier avertissement aux incroyants par l'intermédiaire de trois anges. Un ange annonce un évangile aux habitants de la terre à l'heure de son jugement qui est venu. Alors, se pose la question, est-ce qu'il y a plusieurs évangiles ? Non, l'évangile reste l'évangile. L'évangile veut toujours dire bonne nouvelle. Il s'agit toujours du seul évangile de grâce, celui qui est éternel, nous dit le texte, le salut par la foi seule en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Mais dans ce passage, nous comprenons que l'évangile, c'est bien sûr annoncer la grâce de Dieu, mais c'est aussi avertir les incroyants du danger de la mort éternelle lors du jugement dernier. L'évangile met les hommes devant un choix crucial, il n'y en a pas deux. Craindre Dieu et lui rendre gloire, ou adorer la bête et son image et tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est ce à quoi tout homme sera mis comme choix. Alors l'annonce de l'évangile de grâce devrait être inséparable de l'annonce du jugement terrible qui attend les non-repentis quand on lit ces textes. Alors, vous avez peut-être une expérience d'annoncer l'évangile, ça a été bien reçu ou pas. Mais en ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas un homme qui annonce l'évangile, c'est un ange. Lorsque les hommes n'ont pas reçu l'évangile annoncé par des hommes, Dieu envoie son ange pour l'annoncer. C'est lui qui va finir le travail d'annoncer l'évangile. Et justement, après cette annonce de l'évangile, un second ange annonce cette fois, par anticipation, le jugement certain de Babylone la Grande, qui représente tout ce système immoral mondial, Jugement qui sera détaillé dans les chapitres 17 et 18. Plus tard. Puis, troisième et dernier avertissement par l'intermédiaire du troisième ange qui prévient que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque, il boira, comme Babylone, du vin de la fureur, avant d'être tourmenté jour et nuit en enfer. Verset 11. Dieu aura tout fait pour éviter aux hommes l'enfer, en annonçant par des anges l'évangile éternel, le jugement certain de Babylone à venir, et le risque de souffrir en enfer pour les idolâtres. Il aura tout fait, jusqu'au bout. Alors la souffrance. Personne ici n'a pas souffert, n'est-ce pas ? Tout le monde souffre de toute façon. Alors, autant que ça soit temporairement pour Dieu, en lui restant fidèle, et pas dans des souffrances éternelles de l'enfer. Ceux qui iront en enfer éternellement, ils auront choisi d'y aller. Et n'auront aucune excuse. Dieu est juste dans son jugement. Cette période, elle sera très difficile à vivre. Et pourtant, eh bien, certains chrétiens persévéreront jusqu'à la fin, parfois au prix de leur vie, pour fuir l'idolâtrie et l'immoralité qui sera à son comble dans cette période. Oui, ceux-là se démarqueront d'un christianisme tiède, dans lequel il est facile de se complaire aujourd'hui. Alors ça nous interpelle, parce que ça veut dire qu'il sera possible de rester fidèle au Seigneur, même dans cette période très difficile. Et s'il sera possible de rester fidèle au Seigneur dans une période aussi troublée que celle de l'Antéchrist, c'est qu'il nous est possible de l'être déjà maintenant, où l'opposition n'est pas à son comble. Alors autant se préparer déjà aujourd'hui à être consacré entièrement au Seigneur Jésus, avec une vie d'obéissance exemplaire. Nous sommes invités à vaincre la bête déjà maintenant, par une vie sans compromis. Faites de bons choix. À refuser, comme dit Bob Souza dans son livre, à refuser l'à peu près du 666, le chiffre de la bête, pour viser la perfection du 777, le chiffre divin. Ne nous contentons pas de la médiocrité, de ce qui est juste en dessous. Visons la perfection, par la grâce du Seigneur, dans tout ce que nous sommes. Dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église. Évidemment, nous ne sommes pas arrivés encore, mais c'est en regardant à Jésus et à son obéissance parfaite, pour nous, que nous pouvons y arriver. Et Dieu a tenu à ce que ces textes soient écrits. C'est pour nous qu'il a demandé à l'apôtre Jean de l'écrire. Il a tenu à ce que ces textes soient écrits pour encourager les chrétiens de tous les temps, nous y compris, à garder les commandements de Dieu dans la persévérance et la foi en Jésus. Il a ordonné à l'apôtre Jean, verset 13, « Écris !» Je lis le verset 13, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Alors on n'a pas à avoir peur de la mort. Parce qu'on meurt dans le Seigneur comme on a vécu dans le Seigneur. C'est-à-dire uni à lui, c'est-à-dire heureux. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie avec le Seigneur ? Alors pas de raison d'avoir peur de la mort pour le chrétien. Ces textes sont là pour nous encourager. Alors effectivement, il est question de il est dit de ces chrétiens qui sont morts, qui se reposent de leurs œuvres, leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors les œuvres, la place des œuvres dans la vie du chrétien, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. J'espère qu'on est tous au clair là-dessus. Nous sommes sauvés par la foi seule en Jésus-Christ. Pas par nos bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, voire Éphésiens 2.1. C'est lui qui nous précède, et nous on est appelés à le suivre. Pas l'inverse. Ça veut dire de l'écouter, d'entendre ses instructions. Alors suivons-le. Et disons-nous bien que tout ce que nous faisons pour le Seigneur sera récompensé. Tout ce que vous faites. Que ce soit un mot gentil, que ce soit un don, que ce soit de l'hospitalité, de la disponibilité, que ce soit une oreille attentive envers ceux qui sont dans le besoin. Toute prière, toute parole de témoignage aura sa récompense dans le Seigneur. Toutes ses œuvres. Et si nous le suivons, si nous suivons le Seigneur, viendra un temps où, oui, nous mourrons, à moins qu'il soit revenu avant, eh bien nos œuvres nous suivront. Même si nous mourrons, nos œuvres nous suivront. Elles perdureront même après notre mort. Alors, c'est un encouragement à travailler pour ce qui dure. Pour ce qui dure. Alors, un témoignage. J'ai travaillé avec une missionnaire sud-africaine, Mariana Leroux, qui est décédée en 2016, et qui a mis en musique une centaine de versets bibliques, dans un matériel qui s'appelle « Chantons la parole ». Elle a mis en musique ces versets pour que les enfants les apprennent, et pas seulement les enfants, les familles, les adultes. Elle est décédée en 2016 et j'ai eu à cœur de continuer ce que j'avais déjà, j'avais collaboré avec elle, j'ai eu à cœur de continuer son travail en mettant sur Internet les CD qu'elle avait produits, parce qu'on arrive à rupture de stock. Et puis aussi en travaillant sur de nouveaux accompagnements, avec l'accord de ses héritiers, de ses enfants, bien sûr. Donc le travail continue, même si elle, elle est décédée. Travaillons pour ce qui dure. Alors attention, ça ne veut pas dire que les autres métiers sont moins importants que de prêcher, que d'évangéliser, que... Non. Les autres métiers moins spirituels ou non spirituels, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Si je peux faire ce travail qui sollicite beaucoup l'ordinateur, c'est parce qu'il y a eu des bons informaticiens qui ont fait de bons logiciels dont j'ai pu me servir. Si j'ai pu faire ce travail, c'est parce qu'il y a eu des boulangers qui ont fait du bon pain pour me nourrir. Donc tout métier a son importance. Lisons la suite du chapitre 14, les versets 14 à 20. Est-ce que Morel, tu voudrais lire, s'il te plaît, versets 14 à 20 du chapitre 14.
Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une fossile tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, « Lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa fossile sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades.
Amen, merci. Préféreriez-vous être moissonné ou vendangé? Il est question de moisson et de vendange dans ce texte. Alors Jésus a dit en Luc, dans l'évangile de Luc 10 verset 2, il a dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Nous, l'Église, nous sommes à la fois les moissonnés et les moissonneurs. En annonçant l'Évangile, la mission est notre moisson. Il n'y a qu'une lettre de différence. La mission entre les deux. La mission est notre moisson. Et à la fin du monde... Eh bien, les moissonneurs sont tantôt les anges, voire Matthieu 13, verset 39, si vous voulez la référence, tantôt le Seigneur lui-même, comme c'est très probablement le cas ici, au verset 14. Le Fils d'homme venant sur les nuées et avec une couronne et une fossile. Alors une voix sort du temple et dit, l'heure est venue de moissonner, verset 15. Alors on peut se poser la question, quand sera cette heure? Eh bien, quand toute la terre aura entendu l'Évangile annoncé, à la fin par un ange, comme on l'a vu. La moisson, ce sont les derniers croyants vivant à cette époque qui seront réunis aux autres déjà au ciel. Ensuite vient la vendange. Le jugement, la vendange, c'est le jugement sanglant des incrédules qui ont versé le sang des croyants. Et là, l'image, elle est très claire. Du sang sort de la cuve sur un fleuve long de 1600 stades, ça fait 300 kilomètres sur une profondeur de 1,50 m. La grande cuve de la fureur de Dieu, pleine de sang, est foulée hors de la ville. Hors de la ville. Et c'est un juste retour pour Jésus qui a aussi versé son sang hors de la ville de Jérusalem, selon Hébreux 13, verset 12. C'est le juste retour pour les incroyants. La justice de Dieu est manifestée à la fois dans sa grâce envers nous, pécheurs repentants, qui placent leur confiance en Jésus pour leur salut, et la justice de Dieu est manifestée aussi dans ses jugements pour les autres non repentis qui auront refusé sa grâce. Pour cette raison, eh bien, Dieu est digne d'adoration non seulement pour sa grâce imméritée, mais aussi il est digne d'adoration à cause de son jugement mérité sur les incroyants. Est-ce qu'on adore Dieu pour son jugement, pour sa justice? Alors voyons mon deuxième point. Eh bien, oui, Dieu est digne d'adoration à cause de son jugement mérité sur les incroyants. Le chapitre suivant nous place dans cette adoration, justement. Un moment d'adoration dans ces scènes qui sont sanglantes. Apocalypse chapitre 15, cette fois, versets 1 à 8, je vais le lire. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient sept plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Après cela, je regardais. Et le sanctuaire du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept plaies sortirent du sanctuaire. Ils étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, et portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la fureur de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges soient achevées. Jusqu'ici, pour le moment, la parole de Dieu. Sept anges dans le ciel tiennent sept plaies à envoyer sur la terre, qui sont les derniers jugements de la colère de Dieu. Ils ne sont pas encore tombés. Avant qu'ils ne tombent, Jean a la vision des vainqueurs de la bête. Ces chrétiens victorieux qui sont morts en martyrs, qui ont résisté à la corruption générale. Ils sont, nous dit le texte, debout. Sur une mer de cristal, calme. On imagine, mer de cristal, calme. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils adorent, ils louent. Ils chantent deux cantiques de délivrance. Celui de Moïse, lorsque Dieu avait délivré son peuple de l'esclavage des Égyptiens. Voir Exode 15, 1 et 2. Et ils chantent le cantique de l'agneau, Jésus-Christ, qui raconte une délivrance encore plus extraordinaire que celle qu'ont vécu les Hébreux, celle que Jésus a obtenue pour nous délivrer du mal par sa mort et sa résurrection. Alors, il y a une application pour nous, c'est un encouragement pour nous à louer Dieu, déjà, maintenant, pour son salut en Jésus-Christ, qui est plus merveilleux, plus puissant que la délivrance miraculeuse d'Égypte que les Juifs ont vécu, que nous n'avons pas vécu, lorsque Dieu a ouvert la mer morte en deux. Alors peut-être que vous trouvez que vous ne chantez pas bien, pas de souci. Louer Dieu, c'est continuer de lui faire confiance en tout temps et proclamer que ses voies sont justes et vraies, même lorsque nous sommes victimes d'injustices que nous ne comprenons pas. Si tu continues à louer Dieu, même quand tu ne comprends pas, Seigneur, je te fais confiance. Ça, c'est louer Dieu aussi. Avec ton cœur. Alors je vous propose justement, avant de poursuivre et de terminer, donc, de louer Dieu, de passer à l'action par un chant d'adoration et... Alors, j'ai repéré le numéro 39 dans vos recueils qui parle effectivement de louer Dieu avec les myriades.
Passer à qui est digne, mais ouais. Je vais vous donner là, vous pouvez le chanter. Je vais là.
Mais on peut prendre le 39, oui, ça va.
Ça changera.
Est-ce qu'on le connaît, hein, élevé à la droite à l'agneau de Dieu? Alors 39. La colère de Dieu, oui, elle est bien présente et elle est juste. Elle est juste envers les inconvertis non repentants et elle est inséparable de sa grâce envers nous, ses enfants. Alors, j'aimerais vous poser la question, sans répondre là audiblement, est-ce qu'il vous arrive d'être en colère? Est-ce que vous êtes parfois en colère? Si oui, comment vivez-vous vos colères? Est-ce que vous culpabilisez en vous disant « c'est pas bien » et... Il y a deux sortes de colère. Il y a celle qui est centrée sur nous-mêmes, sur nos intérêts égoïstes, non satisfaits, sur notre frustration. Celle-là, eh bien, demandons à Dieu de nous en débarrasser. On a été crucifié avec le Christ, il a crucifié notre colère, mauvaise colère. Demandons à Dieu de nous en débarrasser, de cette mauvaise colère. Et puis il y a une saine colère, qui est celle de Dieu face à l'injustice, que vous, peut-être vous ressentez aussi, dans ce monde, quand on entend les lois qui se préparent sur l'avortement, sur... Eh bien, si vous ressentez une saine colère, ne culpabilisez pas, au contraire. Remettez-la à Dieu pour bien la gérer. Il vous comprend. Cette colère-là, loin d'être centrée sur nous-mêmes, elle doit nous amener à rechercher le bien des personnes qui agissent mal pour qu'elles s'approchent de Dieu. Ça veut dire prier pour elles. Et peut-être aussi oser confronter des personnes qui nous ont fait mal. Parce que c'est aussi pour leur bien. Peut-être elles ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi est-ce que tu agis de la sorte ? Je me suis senti blessé là. Et dans le meilleur des cas, la personne peut bien réagir et progresser dans sa vie. C'est pas facile hein, de gérer ses colères. Et dans l'Église, c'est pas facile non plus de dire « Oui, on peut se blesser dans l'Église. » C'est pas facile. Mais de se parler, de se dire « Oui, voilà, je me suis senti comme ça, j'étais blessé, pardonne-moi. » Je me suis senti blessé. En tout cas, nous avons tout ce qu'il faut pour marquer la différence avec le monde qui, lui, cultive la rancune. Alors, voyons les sept coupes de la colère de Dieu. Les derniers jugements sur les personnes ayant la marque de la bête. Apocalypse, verset 16, chapitre 16, pardon. Jean, est-ce que je pourrais te demander de le lire tout le chapitre 16, s'il te plaît.
Et j'entendis une voix forte qui venait du temple... et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et un divin du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ce fléau, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il disait clair, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.
Amen. Merci. Cette plaie, donc, les dernières. Cette plaie qui rappelle, peut-être ça vous a rappelé, les plaies d'Égypte. Voir Exode chapitre 9. Ulcères, eau changée en sang, ténèbres, grenouilles, tonnerre, grêle et feu du soleil brûlant. Chaleur torride, ça dépend des versions. Et ici, il n'est pas question de réchauffement climatique, mais de plaies envoyées par Dieu qui a autorité sur ces plaies, nous est-il dit au verset 9. Ces plaies sont envoyées par Dieu. Et la différence avec les sept trompettes précédemment, où il était question de jugement sur un tiers de la terre, eh bien c'est qu'ici, tous les êtres vivants sont touchés. Et vous avez remarqué tous les éléments de la création. La terre, la mer, les fleuves et même l'air sont touchés. Pas d'abri possible. C'est la fin de la patience de Dieu. Tout ce en quoi les hommes se confiaient pour le remplacer s'écroule avec Babylone. Système économique, politique, religieux, technologique, fausses idéologies. En ce temps-là, tout s'écroulera. Avant d'aller à la croix, Jésus avait prié dans l'évangile de Luc 22, 42, disant, c'était juste avant la croix, il avait prié, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus a bu la coupe de notre jugement en versant son sang. Ceux qui ont versé le sang des chrétiens boiront le sang qui aura remplacé l'eau potable des fleuves. L'homme fonctionne au mérite. Eh bien, l'incroyant qui aura refusé la grâce divine imméritée n'aura que ce qu'il mérite, le jugement divin. Au verset 5, l'ange des eaux, c'est ainsi qu'il est appelé, il loue Dieu pour sa justice, même dans des jugements aussi sanglants. Oui, Dieu est digne d'adoration, non seulement pour sa grâce, mais aussi à cause de son jugement mérité sur les incroyants. Et le jugement de Dieu, il est véritable. Là, il n'y aura pas de contrefaçon. Justice est rendue aux âmes des martyrs sous l'autel qui avait attendu patiemment. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » En Matthieu 5, 6. Précédemment, le ciel était. Nous avions lu que le ciel était fermé. Je reviens un peu en arrière. Après une vision d'adoration, Jean avait eu la vision du temple, le sanctuaire du temple, qui était ouvert dans le ciel, les sept anges avec les sept plaies qui n'avaient pas encore été envoyées, et qui sont sortis pour recevoir les sept coupes de la fureur de Dieu, donc les jugements définitifs. Vous avez remarqué le sanctuaire, à ce moment-là, il est rempli de la gloire de Dieu, et il est fermé. Et il restera fermé jusqu'à ce que les sept plaies soient achevées. Ça veut dire que après le temps de la grâce, ce temps de la grâce où nous sommes encore aujourd'hui, eh bien ce sera trop tard. Plus aucune intercession ne pourra retarder ou stopper la colère de Dieu à ce moment précis. Le temple sera fermé à ce moment-là. Alors oui, les sept coupes de la fin du jugement de Dieu. Et vous avez remarqué, par trois fois, il est dit que les hommes blasphémèrent. Au verset 9, lorsqu'ils brûlaient sous la chaleur torride de la quatrième coupe. Verset 11, lorsqu'ils se mordaient la langue de douleur lors de la cinquième coupe, qui obscurcissait encore plus le royaume déjà obscur de la bête. Et verset 21, lorsque des grelons, alors le poids, l'équivalent, hein, c'est des grelons de 45 kilos qui leur tombent dessus à la septième coupe. Voilà où mène la non-repentance. La non-repentance mène au blasphème. Elle finit par le blasphème. Et à la fin des temps, il n'y aura que deux catégories de personnes. Deux, pas trois. Ceux qui adoreront Dieu pour son salut gratuit en Jésus-Christ, qui auront reçu la grâce de Dieu, et ceux qui le blasphémeront à cause de son jugement, parce qu'ils auront été endurcis dans leur non-repentance et dans leur souffrance. Alors, c'est maintenant qu'il faut choisir son camp. C'est maintenant qu'il faut choisir son camp. Parce que ne pas choisir, c'est laisser son cœur s'endurcir. Comme lorsque Dieu a endurci le pharaon au fur et à mesure qu'il résistait aux plaies que Dieu lui envoyait. À la sixième coupe, Dieu laissera les rois non-croyants se laisser séduire par trois esprits de démons pour se rassembler contre lui pour le combat d'Armageddon. Dernier sursaut d'orgueil de la part de l'homme. Et puis là, eh bien, il y a ce verset 15. J'ai l'impression que c'est comme une parenthèse, mais s'il est là, c'est pas par hasard, vous savez. Quand on a, si c'est dit à ce moment-là, dans la parole, c'est qu'il y a une raison. Verset 15, Jésus dit, voici. C'est avant la septième et dernière coupe qui va tomber sur Babylone. Jésus dit, verset 15, voici, je viens comme un voleur. Heureux ceux qui veillent et gardent ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Alors c'est une exhortation pour les chrétiens de tous les temps à ne pas se laisser séduire. Les rois se sont laissés séduire. Mais c'est une exhortation pour nous à ne pas nous laisser séduire et à veiller pour nous garder purs déjà maintenant. Parce qu'à la fin, l'immoralité et l'idolâtrie seront à leur comble. Et ce n'est pas symbolique ici. Je relis le verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est pas symbolique. La pornographie, elle est à la portée de tous, d'un seul clic sur Internet. Et ô combien elle a déjà fait tomber bien des personnes, chrétiennes ou pas. C'est de cette façon que procède l'ennemi, le diable, pour faire tomber les hommes. Alors effectivement, exhortation pour nous à veiller. Au verset 15, vous avez remarqué, Jésus est appelé « Toi qui es et qui étais ». Et Jésus est loué pour exercer le juste jugement de la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus est appelé « Celui qui est, qui était et qui vient ». Ça veut dire qu'il n'est, parce qu'il n'est pas encore venu. Le « sans effet » du verset 17 marque la fin du jugement certain de Babylone à la septième coupe. Il y a une autre phrase que Jésus a dite, il a dit « tout est accompli » en mourant sur la croix, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Mais là, il parlait de son œuvre de salut et de pardon qui a été parfaitement achevée. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et Jésus invite, tant qu'il est temps, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à se tourner vers lui. Pour lui pardonner. Jésus accueille encore tous ceux qui se tournent vers lui dans la repentance et la foi dans son sacrifice pour être pardonnés et sauvés de leurs péchés. Nous sommes encore de ce temps. Je vais prier. Oui Seigneur, merci encore de nous avoir laissé ta parole. C'est vrai qu'elle peut effrayer par certains côtés. D'un autre côté, Seigneur, elle nous rassure. Parce que, Seigneur, tu nous as écrit ce qui doit arriver. Tu nous dis que nous sommes dans la grâce, Seigneur. Et tu nous dis aussi que ce temps prendra fin lorsque tu reviendras pour juger ta création, pour juger le monde, pour juger les incroyants. Alors, Seigneur, nous te demandons cette grâce de nous garder en éveil, Seigneur, de veiller pour ne pas nous laisser séduire, Seigneur, par ces sirènes de... Voilà, de distractions qui veulent nous décentrer de toi. Seigneur, on peut vivre une vie chrétienne dans ce monde, Seigneur, et te rester fidèle. Alors, fais-nous cette grâce de te le rester, Seigneur, d'être dans ta volonté, de t'écouter, Seigneur, de savoir faire silence dans nos cœurs. Tu vois, dans cette agitation, tu vois très souvent combien nous sommes branchés sur Internet. Seigneur, fais qu'Internet ait la place qui soit juste, Seigneur, dans nos vies. Qu'elle ne prenne pas la première place, mais qu'elle soit à la juste place pour être un outil, mais pas un maître, Seigneur. C'est toi le Seigneur. Et je prie que vraiment tu gardes nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Que, tu vois, c'est tellement facile de regarder nos portables, voir si quelqu'un nous a écrit. Mais Seigneur, donne-nous de vraiment être à ton écoute. Quand tu veux nous parler, que Seigneur, nous, on ne soit pas occupés, Seigneur, et qu'on entende ta voix pour nous parler et pour faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous à être vraiment connectés à toi, Seigneur, parce que tu veux nous parler, Seigneur, tu le fais. Voilà, garde-nous, Seigneur, donne-nous de discerner les temps que nous vivons, donne-nous de veiller et d'être des lumières, Seigneur, pour nos proches, nos familles, aussi ceux que tu mets sur notre route, pour avoir eh bien, la bonne parole au bon moment, la parole de l'Évangile, qu'il est temps de se tourner vers toi et de t'accepter. Tant qu'il est temps. Merci Seigneur pour nous avoir promis ta présence, Seigneur, chaque jour, en Jésus-Christ. Amen.
Amen.